savourer nos différences.
Il est 19h sur le 101.5 de Radio G, et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est beau micro, on va parler ce soir de multivers, on va parler d'alligators, de divinités, de mythologie, de bible et peut-être de super-héros. Mais avant tout, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Rappelez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, on va passer une heure ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et comme d'habitude, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Fabien. Ça va Fabien ?
Ça va Seb, et toi ?
Ça va. Il fait chaud, hein, n'est-ce pas ?
Il fait chaud, et encore, ça va être encore pire en fin de semaine.
C'est ça, c'est ce qu'on est en train de se dire. Alors, on a un petit ventilo, peut-être que vous l'entendrez. Normalement, il fait pas beaucoup de bruit. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous avez un petit bzz dans les oreilles. Par quoi on commence ?
Eh ben, je sais pas, t'as ramené plein de choses.
Ouais, je voulais essayer de commencer par des trucs jeunesse d'abord.
Eh ben, écoute, allez, let's go.
Allez, je vais commencer par un truc tout mignon, tout carré, pas tout à fait carré. Ça s'appelle Ali et Gator, c'est de James Burke. C'est James Burks, c'est publié aux Aventuriers d'ailleurs. Comment te le dire ? Tiens, je te le passe, tu vas pouvoir le lire. Donc, c'est un petit pavé, il y a quand même pas mal de pages, j'ai pas compté combien. Et ça nous raconte une histoire assez simple, celle d'un alligator qui a été abandonné dans les toilettes. Par une maman en fait qui se rend compte que son gamin avait un alligator et que se garde pas vraiment comme animal de compagnie. Donc tout le monde connaît cette légende urbaine comme quoi dans les égouts de New York il y aurait des alligators. Ça c'est le point de départ. Et puis on va suivre aussi en parallèle l'histoire d'Ali, une petite jeune fille rousse avec des couettes qui est plutôt pas trop sociable, on va dire. Elle se fait un petit peu bousculer et puis elle a des idées bien arrêtées sur certaines choses. Et ben, les deux compagnons vont se retrouver l'un et l'autre. C'est assez drôle parce que on a des personnages qui sont très caractérisés. L'alligator, il a un côté bonhomme. Je sais pas comment expliquer ça.
Il est sur ses deux pattes et il marche. Donc déjà.
Mais il a ce côté très rondouillard jovial, alors qu'il est plutôt cubique à la base. Mais
ouais, c'est vrai.
Il a ce côté rigolo.
Une forme très rectangulaire et par contre il a l'air de beaucoup sourire et de rigoler.
Ouais, il est tout de suite c'est un personnage qu'on a envie de leur faire des câlins. Alors que bon, un alligator à la base pas trop hein. Et ben c'est très mignon. On est sur des petits sketchs qui vont se suivre avec une histoire au long cours. On va effectivement découvrir la personnalité d'Ali et puis la personnalité de l'alligator. Un alligator qui va devoir lutter contre ses pulsions parce que il a faim et lui il a faim de viande et il aime bien manger les chiens par exemple. Donc Ali va lui dire que c'est pas tout à fait bien à faire. Donc c'est très mignon, c'est très drôle, c'est des formats carrés donc c'est souvent des petits gaufriers 4 cases, ça tient, c'est très propre et c'est un petit moment de. Alors ça se lit très vite.
Oui, c'est très aéré. On voit que c'est jeunesse dans le sens où il y a pas beaucoup à lire. Tout passe vraiment par le dessin. Et le dessin, moi, je le trouve cool. J'aime beaucoup ce petit dessin au ton assez clair, très coloré. C'est bien découpé, donc c'est très aéré. Donc, on comprend tout de suite les gags et ce qui s'y passe sur les quelques pages que j'ai vues là. Et non, ça a l'air vraiment très chouette et ça doit être bien marrant à lire.
Ça passe vraiment tout seul. C'est une petite bulle de fraîcheur dans une journée où t'es un peu bougon, Bah, tu lis ça et ça se passe bien. Il y a des petits passages avec un peu de morale, puisque bah, Ali va pouvoir compter parfois sur Gator pour la venger de certaines situations un peu injustes. Et puis, il y a des petits twists. Je vous spoil pas, mais l'avant-dernière page, on se dit « Quoi ?» Et on finit sur autre chose et c'est très drôle parce que ça marche très très bien.
Je l'ai vu en feuilletant. Et en effet, c'est très sympa.
Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est... si vous nous suivez sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux, j'ai publié une petite image, comme j'ai refait, j'essaie de refaire de manière plus régulière, donc n'hésitez pas à vous abonner, petit instant promo. Il y a une toute petite case au début, un tout petit sketch en fait, en noir et en ombre. On voit une petite grand-mère qui est en train de promener un caniche. Et en fait, au bout d'un moment, le caniche se fait manger et on a l'impression qu'elle promène Gator. Ce qui m'a beaucoup fait rire. C'est tout bête, c'est en ombre et il y a ce côté très, très bonhomme. Je vois pas comment le donner comme mode définition. C'est un tout petit peu plus loin, c'est après. Bon, c'est pas grave. Tu vas fouiller comme tu veux.
J'ai trouvé.
T'as trouvé.
Ouais.
Donc voilà, moi c'est une BD vraiment feel good, vraiment très sympa, qui marche bien, qui est cool. Et voilà, on n'en demande pas plus. Enfin si, j'aimerais bien avoir plus de tomes de ça, je sais pas si c'est prévu. Mais voilà, un bon moment avec des personnages ouais, qu'on prend tout de suite d'affection. Je te laisse redonner les refs.
Oui, alors c'est Ali et Gator de James Burks aux éditions Les Aventuriers d'ailleurs.
Impeccable. Toujours avec les enfants, je vais vous parler d'Elebor, le retour de Junia, d'Éric Gosselet et Gérald Guerlet, publié chez Oxymore, collection Luciole. Alors, comment expliquer cette BD ? On suit d'abord une espèce de grand chevalier qui vient libérer un prisonnier dans une prison. Une prison qui est envahie de plantes. Et en fait, on apprend que ce prisonnier, il est là pour éviter que sa sœur le trouve parce que elle essaierait de le tuer. Il y a toute une histoire un peu... Alors, c'est un peu complexe à résumer. Et on va se rendre compte très vite que ce jeune garçon, il a une espèce de magie verte. Il est capable de faire de la magie avec des plantes. Et en fait, il est super cool parce que il est pas méchant. C'est pas un prisonnier qui est prisonnier parce qu'il a fait des âneries. C'est vraiment pour le protéger. Sauf que personne sait qu'il est là. Sauf ce garde qui vient pour l'emmener et lui faire réintégrer son château parce que peut-être que sa sœur serait sur ses traces. Pourquoi c'est cool ? Parce que c'est une BD avec beaucoup d'aventures. C'est une BD avec des personnages qu'on imagine avoir cerné très vite. Et il y a plein de petits twists, il y a plein de petits rebondissements au fur et à mesure. Peut-être que le chevalier qui vient le chercher n'est pas forcément venu le chercher pour des raisons sympas. Peut-être que l'histoire qu'on connaît n'est pas tout à fait la bonne. Enfin, il y a plein de petits rebondissements comme ça. Et les personnages sont sympatoches. Le héros, avec son physique de chien, en fait, tous les personnages sont anthropomorphes. J'ai oublié de le spécifier.
Ils sont anthropomorphes, ouais.
Et il a un look très sympa, très cool. C'est le teenage qu'on aimerait bien rencontrer, parce que voilà. Le guerrier, le chevalier qui vient le chercher, le chevalier Molosse de mémoire, est très grand, très trapu, très massif. On se doute que lui, s'il nous met une baffe, on va la sentir passer tout de suite. Et puis, on a un univers qui est très détaillé, avec des couleurs qui sont pop, avec plein de petits détails un peu partout. On a un décor qui prend vraiment vie à fond sous nos yeux parce que il y a de la matière, c'est vivant, il y a des petits trucs qui se passent en fond des fois sans que ça ait une incidence sur l'histoire et ça marche très bien et c'est très fluide et l'histoire est pour un ouvrage aussi, je vais pas dire aussi fin parce que c'est un ouvrage plutôt standard dans son format, mais il y a de la matière, il y a de l'histoire, et comme c'est un tome 1, on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être racontées dans la suite, et il y a plein de petites mises en place qui sont faites, qui font que on a le truc vraiment très cool à lire, et qui passe bien. Et j'ai pas mentionné, mais c'est plutôt un ouvrage qui est destiné à un jeune public, et même un adulte, en fait, va y trouver son compte, clairement. Donc c'est franchement cool.
Ouais, là, on est sur un public, je pense, un tout petit peu plus âgé quand même que Alligator d'avant, oui, parce qu'on est vraiment sur un format BD, alors qu'avant on était vraiment sur le format plus jeunesse.
Alligator, on est plutôt sur du 7-8, ouais, grand max, alors que là on va être sur 10-12.
Ouais, ouais, c'est ça. Puis la couve, elle est super chouette, l'édition, ouais, elle est belle. Oxymore, j'ai remarqué, parce que ça fait plusieurs fois que t'as des services presse qui arrivent, qui font vraiment des choses très sympas au niveau des couvertures. Il y a toujours des petits effets, ça donne envie de l'ouvrir, en fait.
Ouais, il y a un côté très bel objet.
Oui, exactement.
Mais sans excès.
Non, c'est ça.
C'est bien fait, sans abus.
C'est sobre, tout en étant, tout en donnant envie, en fait, de découvrir.
Là, en l'occurrence, on a le personnage principal qui est au milieu, en fait, d'une forêt, hein, c'est ça de...
Oui, c'est ça, ouais, globalement, c'est ça, avec en fond le château, on voit le guerrier et les petits méchants à côté, et on voit qu'il va y avoir de la magie, puisqu'il a une belle fleur dorée dans la main. Non, ça donne envie, et puis avec ces petits effets de brillance dans les fruits de la jungle, qui sont très sympas.
Mais une couverture efficace qui nous dit tout de suite ce qu'on va avoir à l'intérieur, ouais, sans mentir en plus, clairement.
Ça, c'est plutôt cool.
Eh ben, c'est clair. Tu voulais rajouter quelque chose dessus ?
Non, non, rien de particulier. J'ai feuilleté. Je trouve ça agréable à regarder déjà. Et ça donne envie de lire et de se laisser emporter dans l'aventure de ce chien ou renard. On sait pas.
Ouais, un chien loup.
Un chien loup, ouais. Ouais, chien loup, un petit peu. Mais tout fin. C'est marrant. Il est très longiligne.
Ouais, à côté du chevalier molosse qui lui est.
Oui, c'est ça, exactement. Ils font très dépareillés les deux.
Mais alors, j'avoue que je commence à connaître beaucoup d'histoires et à voir des fois certaines ficelles arriver rapidement, des fois à travers. Là, en l'occurrence, il y a quelques petits retournements de situation que j'ai pas vu venir. Donc, je trouve ça malin d'arriver à surprendre quand même des lecteurs avertis, alors qu'on est plutôt dans une lecture qui est pas forcément pour moi.
Oui, exactement. Bah, c'est pour ça que c'est sympa aussi de lire des choses qui nous sortent de nos carcans un peu habituels de lecture et clairement, de découvrir des nouvelles choses.
Eh ben parfait. Je te laisse redonner les références.
Ouais. Alors c'est Hellebore, le retour de Junia, de Éric Gosselet et Gérald Guerlet aux éditions Oxymore, et ça doit être la collection Luciole.
C'est ça. Je précise que c'est un service de presse. Alligator, c'était un service de moi, en fait. Pas de presse, du coup. est-ce que je le fais ? Allez, je vais le faire. Ça y est, j'ai enfin fait un générique What the Fuck. On l'a pas encore écouté.
Non.
Et du coup, on va pouvoir parler de Sanda, qu'on n'a pas parlé.
Ok.
On l'a beaucoup évoqué, mais on n'a pas parlé.
Tout à fait.
Allez, générique What the Fuck.
Noni ! Ok, j'attends la chute de la blague.
Non, il n'y a pas de chute.
What ? What the fuck ?
Voilà, voilà. Alors, j'ai enfin... Il est sobre, bien, et j'ai essayé de mettre du manga.
Très sympa, très sympa.
T'as reconnu le rigolage à la toute fin ou pas ?
Non.
Alors, je l'ai quand même pas mal accéléré pour le modifier, mais c'est le rire de Kira dans Death Note.
Ok, d'accord.
Voilà.
Sympa.
Je voulais mettre du manga, du comics. J'ai tout ce qu'il faut.
Parfait.
Là, pour ce manga What the Fuck, je vais vous parler d'un... Enfin, pour ce What the Fuck, je vais vous parler d'un manga publié aux éditions Kiun, il y a quand même quelques temps déjà. Qui s'appelle Sanda, c'est de Paru Itagaki, je vais y arriver. C'est pas un service de presse, c'est un truc sur lequel je suis tombé et j'ai trouvé ça tellement bien que je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Et en échangeant avec Fabien, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que l'autrice, c'est l'autrice de Beastars. Beastars que je n'avais pas lu, que j'ai été. Alors je connaissais globalement l'esthétique puisque j'avais vu des moments de l'animé, j'avais vu éventuellement les couves des bouquins, mais je me suis dit c'est forcément un truc qu'il faut que je lise parce que j'adore l'esthétique de Sanda. Et twist, ça ressemble pas du tout à Sanda.
Eh ben non, exactement, on n'est pas du tout sur le même style de dessin. C'est assez dingue. Franchement, c'est assez dingue.
Ouais.
Moi, je trouve que Beastar, le dessin, je le trouve magnifique. Et là, on n'est pas du tout sur la même façon de dessiner, en fait. Moi, je trouve ça hallucinant d'être capable de sortir deux styles complètement différents comme ça.
Alors, petit pitch de base. Donc, Beastars, on n'a pas présenté la série, je pense. Une série avec des animaux anthropomorphiques, plutôt polar, je crois.
Oui, c'est ça. En fait, le pitch de départ, c'est qu'il y a il y a un animal donc herbivore, parce que les herbivores et les carnivores vivent ensemble, sauf que bien entendu ils n'ont pas le droit de manger les herbivores, sauf que bah il se passe c'est une université je crois de mémoire ou un lycée, et il y a le meurtre d'un herbivore par un carnivore. Donc ça part de ça en fait.
On va pas rentrer plus dans le détail, de Beastars qu'on va parler. Il faut savoir que cet ouvrage qui a bien fonctionné, il a été écrit par, j'ai perdu le nom, j'arrive pas à le retenir.
Baru Itagaki.
Qui s'est avéré être la fille d'un quelqu'un très connu.
Exactement.
Je laisserai chercher, on va pas vous mentionner ça, parce que c'est pas le sujet non plus. Et moi, je découvre Sanda. Sanda, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a décidé, donc ça se passe dans un milieu scolaire, et elle a décidé de poignarder un de ses camarades de classe pour prouver qu'il est la réincarnation du Père Noël. Alors déjà, juste ça, normalement, ça, vous comprenez pourquoi c'est la catégorie what the fuck. Là où ça devient encore plus what the fuck, c'est qu'il s'avère que la jeune fille avait raison. Son pote est bien la réincarnation du Père Noël. Alors, je vous raconte quelques petits éléments. Cet environnement scolaire, c'est un environnement où on a une relation inversée. Ce sont les élèves qui imposent leur respect aux adultes. Et dans ce monde-là, les élèves ne croient plus du tout au Père Noël, et le Père Noël, bah, est devenu une sorte de légende urbaine. Là, en gros, l'héroïne elle a choisi de poignarder son pote parce que une de ses amies a disparu, et elle est persuadée que seuls les pouvoirs du Père Noël vont lui permettre de retrouver cette amie qui a disparu. Quand je dis pouvoir, j'utilise le terme exact, puisque pour moi, Sanda, c'est un manga de super-héros. Le héros, quand il réunit certaines conditions, par exemple porter du rouge, il se transforme de petit gringalet en vieux papy ultra-musclé, badass, avec un regard noir à foudroyer les enfants. Et il a des pouvoirs particuliers. Il est capable de détecter quand les gens font des mensonges. Il est capable... Enfin, je vous spoil pas, mais... C'est du super-héros, clairement. Parce qu'il va devoir maintenir son identité secrète, il va devoir dissimuler ses pouvoirs, et des fois ça peut popper un petit peu comme on voudrait pas que ça pop. Et ça donne des trucs très très drôles. Et c'est vraiment cool. Et graphiquement, moi j'ai adoré ça. On est sur un trait qui est c'est très incisif.
Ouais, il y a la serpe un peu, ouais. Là, il y a des moments. Et il y a même certains, j'ai regardé certaines planches comme celle-là, j'ai l'impression de voir l'étrange Noël de Monsieur Jack un peu.
Il y a ce côté très filiforme du personnage. Ouais.
Exactement, sur ce côté très filiforme.
Ce qui contraste énormément quand justement le héros devient Sanda, devient le personnage, puisque là on a un personnage très musclé, et là encore une fois c'est très taillé à la serpe, c'est très anguleux, les personnages ont des yeux, là les yeux prennent un gros volume, mais c'est pas des yeux gros ronds comme on a l'habitude. Ouais. Ils sont plutôt en amande, ils sont plutôt, c'est plutôt des triangles avec pointe en bas en fait souvent. Et j'ai adoré. C'est très noir, très sombre, comme si on avait vraiment appuyé très fortement la mine du crayon pour faire des traits vraiment très posés. Et on pourrait presque voir la trace en fait du crayon à travers la page.
Oui, non, c'est sûr que, et en effet, ça change pour ceux qui connaissent Beastars. Ils vont pas s'attendre à ça du tout, hein. Clairement.
Clairement pas. Et je sais pas si je préfère pas Sanda, du coup, moi.
Ah, c'est vraiment deux styles différents. Après, dans Beastars, c'est plus doux. Ouais. Et c'est le contenu qui le veut aussi, mais c'est plus doux, c'est plus détaillé, entre guillemets, fin, en fait. Alors que là, on est pas sur de la finesse, on est, comme tu dis, sur des traits très anguleux, très... Mais c'est très bien dessiné aussi. C'est vraiment deux approches qui n'ont rien à voir. Ce que je trouve ça dingue.
On pourrait tout à fait penser faites par deux autrices différentes.
Ah, exactement. Ah bah, complètement, mais elle aurait pris un pseudo sans rien dire. Je pense que personne ne savait que c'était elle.
Eh ben, moi j'ai adoré ça. Il y a des personnages qui sont très caractérisés. Alors, j'avoue que le début, il y a certains passages, on se dit, attends, c'est un peu brouillon, c'est un peu fouillis, mais en fait, ça passe tout seul. Une fois qu'on a passé un certain passage, ça se passe tout seul. Et il y a des antagonistes qui sont stylés, le directeur de l'école, très particulier, je vais pas vous spoiler, mais il y a vraiment un truc très particulier avec ce directeur qui est que je trouve bien retranscrit, et voilà, directeur qui est l'antagoniste hein, à un moment, donc voilà. Donc allez-y, moi j'ai vraiment trouvé ça cool. Sanda, c'est aux des éditions Kiun, et c'est de
Baru Itadaki.
Voilà. Donc j'espère que ce premier What the Fuck avec un générique vous a plu, même si les autres What the Fuck étaient plutôt cool. Donc,
j'avais une petite question pour toi, Seb. Je vois qu'il est classé en seinen.
Bon, ouais.
Parce que j'ai pas eu l'impression en tournant les pages qu'il y avait des choses qui pouvaient être gênantes pour les plus jeunes. Est-ce que c'est parce que ça va peut-être le devenir après, ou comment t'as ressenti toi au niveau de la lecture?
Je sais pas. Je pense que la thématique du Père Noël déjà, elle est un petit peu particulière pour les plus jeunes publics. Oui. Et il y a des moments en fait, on se retrouve avec un vieillard dans une école, un vieillard à moitié à poil dans une école avec des ados.
Ok, d'accord.
Je pense que, mais il y a pas de truc choquant, il y a pas de non. J'ai pas vu de truc choquant.
Ça marche.
Donc voilà.
Après, comme on disait, les classements, ça dépend des magazines de prépublication, donc du coup, c'est ça ne veut pas forcément dire grand-chose non plus.
Mais à voir sur la suite. On peut avoir des thématiques un peu plus matures. Après, on a un personnage qui essaie de poignarder son camarade de classe dans une enceinte scolaire.
Oui, dès la première page en plus. Voilà. Donc, en effet.
Déjà, juste ce thème-là peut qualifier.
Exactement.
Notamment sous nos contrées. Voilà. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Je vais vous envoyer avec Alexia Evelyn et le morceau Savage Daughters. Ça te va?
Ah, parfait, je ne connais pas, donc je vais découvrir.
Et ben, je vous retrouve tout de suite sur le 101.5 de Radio G.
G 101.5 FM.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Vous pouvez toujours nous parler dans le chat, directement sur le site de Radio G. Voilà, il y a personne, mais on leur fait coucou quand même. Des fois, on a des gens qui peuvent comme ça.
Oui, comme ça, des petites questions de temps en temps, c'est sympa. Ouais.
Donc n'hésitez pas, tous les réseaux sont là, sont ouverts, sont pour nous. C'est l'occasion. Est-ce que tu veux y aller, toi, Fabien,
et
aujourd'hui?
Avec plaisir, allons-y.
Eh ben, écoute, on va te mettre ton générique aussi. Hop, tu es ici...
Nani ?
お前はもう死んでいる。
Je m'enflamme toujours à la fin de ton générique, je sais pas
pourquoi. C'est étonnant. Ça s'y prête un peu en même temps.
C'est clair. De quoi tu nous parles ce soir, Fabien ?
Eh ben, je vais vous faire voyager à travers différents mondes.
Oh.
Je vais vous parler du le livre des multivers avec un petit sous-titre Super String.
Super String.
Ouais. Alors pourtant rien à voir tout de suite. Hein, je dis tout de suite rien à voir avec les sous-vêtements et tout ça. Hein.
D'accord. Ok.
Clairement. Ou alors c'est pas encore arrivé.
Tu nous expliqueras. Il y a peut-être un sens quand même derrière.
Oui. Il y en a un quand même. Et donc du coup, je vais vous parler du livre des multivers, donc qui est édité chez Pika Édition, dont le premier tome est sorti cette année et qui est paru au Japon en 2023 et qui s'est terminé en 4 tomes. Donc c'est un shonen, donc plutôt court pour un shonen. Hein. Et aux manettes, on a au scénario Inwan Yoon et au dessin Boichi. Donc au départ, on doit être sur un webtoon. Je pense.
Possible, ouais.
Je pense qu'au départ, on est sur un webtoon. J'ai oublié de vérifier, mais pour moi, c'est ça. Et donc, du coup, comme je disais, c'est un shonen, on va être sur de l'aventure, du fantastique, mais de quoi ça parle exactement? Donc en fait, après que sa famille se soit attirée les foudres de la famille impériale, le jeune Marco Polo doit enchaîner les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa fratrie. Alors qu'il travaille comme mousse, il se retrouve soudainement dans une version fantastique de l'Asie où les monstres existent. Confronté à l'un d'entre eux, il est sauvé par une gobeline, Wall Yang, qui le considère comme son maître. Par la suite, Marco Polo et Wall Yang seront amenés à voyager à travers différentes dimensions afin d'aider le groupe Super String, un rassemblement de héros, à combattre l'organisation White qui cherche à détruire l'humanité.
Ok, d'où ça a l'air dense quand même.
Eh ben oui, exactement. En effet, ça a l'air très dense. D'où ma surprise en fait en voyant que c'était fini en 4 tomes. J'étais assez étonné. D'ailleurs,
ça fait pas beaucoup.
Bah non, ça fait pas beaucoup, surtout que. Ça donne à penser qu'il peut se passer plein de trucs quand on lit ce premier tome. Mais je pense que c'est un des petits défauts que je lui donnais, c'est que ça va très vite. On passe de l'époque de Marco Polo, hein, d'où la référence au Marco Polo l'explorateur. Hein, clairement, elle est là, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. On passe faire ça, on va dans un autre monde avec cette gobeline, et après on repart encore tout de suite. Donc, dans un premier tome, ça fait beaucoup de choses. Après, par contre, c'est hyper bien rythmé.
Okay.
Il y a beaucoup d'action, il y a de l'humour. Donc ça se lit vraiment très très bien, on passe vraiment un très bon moment.
Oui, ça va vite, mais pas trop vite quand même.
Non, après on peut être simple. Ça, moi je trouve quand même que c'est un petit défaut, parce qu'on peut être un peu perdu par cette vitesse. Ça manque de poser un peu les choses pour bien se retrouver, parce que des fois on se dit « putain, il est déjà parti là » et tout ça, voilà. Ça va quand même un peu trop vite à mon goût.
Okay.
Mais on prend du plaisir à lire, tiens, je te le passe. Et surtout, on a quand même un dessinateur que moi j'adore, c'est Boichi. Boichi, c'est donc, pour ceux qui connaissent, l'auteur de Sunken Rock, Dr. Stone, qui est aussi un manga bien connu, ou encore Sanctum, dont j'avais déjà parlé ici il y a quelques temps. C'est un trait qui est... il est talentueux au possible, ce dessinateur-là. Alors, il y en a qui peuvent ne pas aimer ce côté très précis, des fois, qu'il peut avoir sur certains visages ou certaines choses, mais dans le shonen, on le retrouve un peu moins. Je pense que moi, je le préfère dans les seinen encore plus, parce que avec le rythme de parution différent des magazines shonen et seinen au Japon, il a encore plus de temps à poser sur ses dessins. Mais on retrouve tout de suite sa main. De toute façon, elle est reconnaissable entre mille. Dès qu'on voit un manga et que c'est lui, on sait tout de suite que c'est lui. Il y a pas, voilà, il a un
ce genre de choses là.
Ouais. Enfin, c'est même la main qu'on peut voir sur la couverture. La main de sorte de la gobeline.
Sorte de main, ok.
Voilà, là, parce que forcément, voilà, il va y avoir un truc entre les deux, là. Il va y avoir des pouvoirs, parce qu'en fait, ça mêle un peu de tout. Tu as de l'héroïque fantasy, t'as de la science-fiction, t'as de la magie. C'est vraiment un melting pot de plein de trucs qui se retrouvent amassés là-dedans à une vitesse folle. Et donc, du coup, moi, au départ, je m'étais dit, bah, ça va partir dans le multivers, ça va prendre une grosse ampleur et tout. Et là, j'ai vu, ah, fini en 4 tomes. J'ai fait, bon, on va voir ce que ça donne. Mais du coup, ça m'a mis un petit, je me suis dit, mince, ça va aller, ça veut dire que ça va aller vite tout le temps. Alors, j'ai hâte de voir la suite parce que j'ai aimé ma lecture, mais j'espère juste qu'à un moment, ça va quand même y avoir des petits moments où on va pouvoir poser un peu le truc pour mieux comprendre tout l'enjeu, en fait, qu'il y a entre ce groupe Superstring, cette organisation White, et voir un peu, pour essayer de sauver le multivers, a priori, de ce qu'on en sait. Mais vraiment, très cool quand même à lire, hein, pour ceux qui, c'est un shonen qui va à 100 à l'heure, hein, clairement, et en plus, il y a des petites touches d'humour qui sont assez sympas, qu'on peut retrouver par moment. Donc, je recommande. J'ai envie de vous lire la suite pour voir vers quoi ça va aller. J'ai un petit bémol sur le fait de me dire c'est que 4 tomes. Mais bon, à voir comment il va réussir à gérer son scénario. Scénario qui est fait par un auteur que je ne connais pas particulièrement, mais a priori, de ce que j'ai lu, il a retranscrit dans cette série-là des personnages de ses autres séries. Donc pour ceux qui le connaissent, ça peut avoir un petit côté sympa de retrouver d'autres personnages de d'autres séries de l'auteur.
Yoon In Won.
C'est ça.
Ah, il y a le nouvel Angyoshi dont on avait parlé.
C'est lui ?
Ouais.
Ah bah tu vois, j'avais même pas vu, donc oui, le bah,
nouvel... Je viens juste de le...
Ouais bah écoute, j'ai pas bien fait mon travail, j'avais pas fait le rapprochement. C'est et d'ailleurs, très sympa le nouvel Angyoshi.
Ouais.
Très très sympa. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien quand ça va, ça speed un peu, qu'il y a de l'action, que c'est drôle, avec pas mal d'anachronismes aussi, du fait de ce multivers où il se retrouve de l'époque de Marco Polo à venir à notre époque à nous, en passant par un monde avec des gobelins. Donc voilà, on est et tout ça dans le premier tome.
Et il n'hésite pas, ce que je regardais en le parcourant, à complètement éclater la narration sur les 2 pages, quitte à nous obliger à tourner le bouquin.
Ah oui, ça va dans tous les sens. Mais c'est magnifique, par contre. Le trait.
Bon, et c'est lisible.
Et c'est lisible. Ça reste lisible, tout à fait.
C'est ça qui est cool.
Il a cette capacité-là à faire qu'on comprend ce qui se passe par ce super dessin.
Ouais, et puis, là, je pense que c'est un personnage qui est, la façon dont il te travaille. Un petit bout de casque, tu vas commencer à lire, et puis hop, t'as le reste de l'action sur l'autre.
T'as un gros découpage, un peu en diagonale qui peut venir là, avec un petit, ouais, non, ça amène ce rythme, en fait, intense.
Ouais, et puis les persos sont charismatiques.
Exactement.
Moi, ça me fait plaisir, ça. Ça me donne envie.
Ouais, mais c'est, franchement, ça se tente bien. J'ai envie de voir ce que va donner la suite, parce que j'ai peur que ça soit pas assez. Mais, au vu de l'ampleur de ce que ça nous annonce, en fait.
Ouais.
C'est juste ça.
Ok. Alors là, j'ai pas l'ampleur, moi, mais.
Bah non. On verra. On verra.
Ok. Je redonne les références,
ouais,
du coup. C'est le livre des multivers, Superstring. C'est publié chez Pika Édition, scénario d'In Won Yoon et dessin de Boichi. Waylab en dessous, c'est le studio.
Je crois que c'est la partie coréenne du webtoon.
Ah, ok.
Je me demande si c'est pas ça.
Parce qu'en fait, le webtoon, j'ai regardé, on était bien sur un webtoon à l'origine en 34 chapitres.
D'accord, donc, oui, très court.
C'est très court.
C'est ça.
Mais ouais, cool. Ah bah oui, il faut quand même que je raconte d'autres trucs, moi.
À ton tour.
À mon tour, avec un ouvrage qui n'est pas un service de presse, avec la légende d'Amo, chasseuse de dieux, de Nobuaki Tadano, publié aux éditions Mangetsu. Je vais te le passer, et je veux que tu, avant que je dise quoi que ce soit, que tu me l'ouvres, et que tu me dises à quoi ça te fait penser.
Alors, moi, ça, déjà, j'ai l'impression d'avoir un récit de samouraï, mais ancien, c'est-à-dire pas quelque chose qui date un peu, en termes de dessin et de retranscription du style. En ouvrant comme ça, je me dis que c'est années 80-90, dans ces eaux-là, on sent le Edo, la période Edo.
On va être dans ces moments-là, ouais.
Et on voit tout de suite pas mal d'animaux aussi.
Oui.
Et donc du coup, moi j'ai vu, donc je ne vais rien dire, mais ça ne me surprend pas trop de ce que j'ai lu sur le côté.
Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le côté ?
Eh ben, qu'est-ce que j'ai vu ? Si je dis pas une bêtise, il y avait pas un petit truc autour ?
Là.
Ah, il a été enlevé.
C'est moi qui ai enlevé le truc.
Miyazaki dessus, non ? Voilà, Hayao Miyazaki, dans la lignée. Donc, ce qui me surprend pas, parce qu'on ressent déjà sur le petit dessin là du bandeau, on voit du Princesse Mononoké direct.
C'est exactement ça que je voulais que tu sentes.
Ouais, exactement.
En gros, donc l'ouvrage est, c'est un ouvrage imposant. J'ai pas le nombre de pages, mais il y en a quand même un certain nombre. C'est un format manga classique, un petit peu plus grand, je crois même.
665 pages.
665 pages, donc gros pavé. On est sur une couverture verte avec des liserés dorés, très propres, avec juste le titre, avec une typo un peu particulière au centre. Et puis on a des espèces de branchages en doré qui viennent entourer la couverture. Déjà, alors, c'est mon seul regret que j'ai dans cet ouvrage-là, c'est que on sent qu'il y a de la matière, il y a de la texture, mais il y a un côté comme si on avait mis un film plastique par-dessus, ce qui nous gâche cette matière qui est cachée à l'intérieur. Ça, c'est le seul reproche que je ferai au bouquin. Si, oui, avec un petit marque-page en tissu, ça aurait été pas très très...
Ou un signé.
Un signé, ouais.
Au vu de la taille du bouquin, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un roman cartonné, hein, d'ailleurs, hein, parce que vraiment c'est cartonné.
Oui, c'est pas...
C'est pas du souple, on est sur du rigide. Et un petit signé comme ils ont fait chez Delcourt pour leurs éditions Prestige là,
ça aurait été pas du luxe.
Ça aurait été pas mal, ça aurait pu rendre mais bon. Après ça reste propre, hein.
Ça reste très propre, il y a pas de souci. À l'intérieur. Donc on est sur un ouvrage qui va nous parler, donc on est dans une époque plutôt médiévale au Japon, un Japon. C'est pas tout à fait un Japon tel qu'on pourrait l'imaginer, mais c'est faut imaginer une ambiance japonisante. Et en gros, les divinités sont plutôt omniprésentes dans cet univers-là. Elles ont chasse gardée sur certains endroits, et les humains ont le droit de chasser simplement des créatures qui ont des marques en forme de bandes sur leur corps. De base, le système de caste du truc fait qu'il n'y a que les hommes qui ont le droit de chasser. Et on va suivre Amo, une jeune femme qui est très douée en chasse et qui va chasser en compagnie d'un jeune garçon. Je vais assez vite hein, dans l'évolution, mais on a une divinité une divinité plutôt féminine, qui va s'intéresser à ce jeune garçon et le kidnapper. La jeune fille n'est pas du tout d'accord. Elle va se faire accuser, en fait, d'avoir provoqué le malheur sur le village et se faire bannir. Et comme marque d'infamie, on va lui tatouer sur le bras la marque que portent les animaux qui peuvent être chassés, qui est la marque des bannis. Et du coup, elle va partir et elle n'a qu'une seule idée en tête, retrouver son compagnon et se venger de cette divinité. Ça, c'est le début. Et elle va faire un road trip à travers tout cet univers pour aller retrouver des divinités où elle va les questionner, en fait, pour pouvoir identifier déjà la divinité qui a kidnappé son compagnon, et puis surtout savoir comment pouvoir le rejoindre et se venger. En chemin, on va se rendre compte de pas mal de choses, notamment que Amo n'est peut-être pas tout à fait ce qu'elle est, ou ce qu'elle paraissait être. Pourquoi c'est génial? On en parlait sur le bandeau, il nous mentionne Hayao Miyazaki, surtout Princesse Mononoké. On a ce dessin qui est très travaillé, très propre, très lisse, très lisse, très fin. Ce que je veux dire,
oui, c'est très fin. Exactement. Les traits sont pas appuyés.
Non.
C'est doux, tout en faisant ressortir avec quand même le côté sombre de certaines pages et tout ça.
Il y a beaucoup de choses dedans.
Énormément de détails, les décors. On n'est pas sur des pages blanches avec des fonds, avec deux traits pour faire un bâtiment. Hein. Là,
c'est clair.
Clairement, j'adore.
Et c'est vraiment très très bien à lire, parce que on a un univers qui est cohérent. On a des divinités qu'on n'a qu'une envie, c'est de détester, parce qu'il n'y en a pas une seule qui est vraiment sympa. Hein. Il y a un bestiaire qui est très travaillé. Et clairement, si vous avez aimé Princesse Mononoké, vous allez adorer. Toutefois, je préfère préciser que Princesse Mononoké, c'est bien, il n'y a pas trop de concessions. Là, on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus violent.
Ah oui, ouais. Parce que Princesse Mononoké, déjà, c'est quand même très très violent. Hein.
J'aurais pas dit très très violent, c'est violent, mais
okay.
Là, on a cette cruauté en fait divine qui est toujours présente.
D'accord.
Et y a pas mal de passages qui peuvent être un petit peu difficiles, donc
okay.
Pas forcément orientés vers un jeune public. Mais du coup, très très cool à lire.
Bah, Princesse Mononoké non plus, hein. Attention.
Oui,
hein.
On est d'accord.
Parce que,
ouais, j'ai montré plein de Ghibli, mais pas celui-là.
Ouais, moi, ça fait partie de, je crois que c'est mon Ghibli préféré, Princesse Mononoké. Je l'adore. Vraiment.
Ouais, je le regarde.
Et ça me donne très 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 envie.
C'est vrai?
Ouais. Ah oui, oui. On ressent, ouais. On sent qu'il s'est inspiré quand même beaucoup de cet univers-là. Et c'est un univers que moi, j'ai beaucoup apprécié. Et donc, ça donne ouais, très envie de lire.
Il y a plein de choses. Il y a des manifestations de pouvoir magique. Il y a sur des pages où on ressent vraiment le côté très épique en fait du combat qui est en train de se jouer. On sent bien aussi la petitesse des humains face à certaines divinités. Et clairement, elles sont pas les divinités. On est d'accord, elles sont pas sur leur jour le plus sympa. Hein. Ça reste des divinités qui sont là punitives, égoïstes et tout ce que tu veux. Donc c'est
ouais, bah ça donne bien envie en tout cas.
C'est vraiment très très bien. Je te laisse redonner les références. Ouais,
c'est La Légende d'Amo, chasseuse de dieux de Nobuaki Tadano aux éditions Mangetsu.
Eh ben parfait. Ce que je vous propose, c'est de refaire une petite pause musicale. On va changer complètement d'univers. On va partir, je sais même pas d'où elle est. Je crois qu'elle est d'origine coréenne, la jeune femme, avec Millie et la chanson One Punch. Aucun rapport avec One Punch Man, mais la chanson est cool. Allez, à tout à l'heure. Let me get a punch. Let you feel a punch. Let me get a punch. When a hook don't sleep, oh yeah, yeah, oh. When a hook don't sleep, oh yeah, yeah, oh. When a hook don't sleep, oh yeah, yeah, oh. When a hook don't sleep, don't punch me. Don't keep getting me pissed before I make you pee. Pray for your rest in peace. It's the only peace that you need. Even a punch. This is the purge. Everybody, please, your perk. Your purr, I'ma kill these people. Where's my pussy pound? Play with the wrong gal, pow. Put when it put, get my pop on, yow. Pop on now, yeah, I'm a kite, ying, my pow, 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 pow. Peg it out, back it out, what's up, pop, love, yo, how about now, bruh? Jump by me with the wall, tune, who, fuck, who, chat, mung, chuk, now, ow, ow, ow. Be the pepper, pick a pack of peppers. People like me, pick a pack of bread for a week, per day, per minute. Rapper likes me, I'm pulling panic. Boko, ben, for ying, me, pull the proof, make when the prank, coach, I'm loose, array me, roof, from pool, keep hammer, pipe, a pool, kapoot, break a right, point, cut, toys, a chute, it's well, a pork. Prove in one punch. All battles are beat in one punch. Fuck you, bitch, I kill you in one punch. Raise a tingle, stick a hot one punch. You wait to go to go to mama go one punch. One nanti go choke us a one punch. One day, one life, one dream, one punch. If you have one shot, better have one punch. Eminem said, Millie Rabbit, I'm the old shark. You just catfish. Kevin said, but make a quantic. Summer and from the competition, shed for love, cause I'm the best, bitch.
Nani?
Oh.
Ok, j'attends la chute de la blague.
Vas-y, OG. 101.5 FM.
Non, il n'y a pas de chute.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'était le bazar, c'est que j'ai appuyé sur pas les bons boutons. Donc voilà, mais voilà.
Moi, ça m'a bien fait rigoler, en tout cas.
Ouais, j'ai vu ça. J'ai essayé de corriger mon truc et je me suis engouffré. Alors, j'ai arrêté d'appuyer sur les boutons, j'ai lancé. Et c'est voilà. Nous revoici sur le 101.5 de Radio G. Si vous avez fait rire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je n'en tiendrai pas compte. Bref. On aborde la dernière partie de l'émission avec plutôt la partie mature pour les adultes. On va commencer avec... je sais pas lequel des deux. On va aller chez Urban Comics. Allez. Avec un petit Batman. J'en parle pas tant que ça de Batman ici. Parce que je trouve qu'on en parle trop déjà de Batman des fois. Et que des fois, t'as des Batman, ils sont pas super cool. Enfin voilà, c'est un peu bizarre.
J'ai pas beaucoup d'expérience moi avec Batman pour le coup. À part, bon, forcément tout ce qui est un peu film et ce genre de choses, même série un petit peu, mais j'en ai pas lu des masses, donc je saurais pas trop dire.
Ok, donc là, ça peut être intéressant pour découvrir, même si c'est pas forcément le truc le plus abordable du... Je suis en train de chercher le nombre de pages, mais c'est pas grave. Ça s'appelle Batman Dark Patterns, c'est de Dan Waters et Aidan Sherman. Le tome 1 s'appelle L'affaire 1, l'homme blessé. Il y aura un tome 2 à paraître, ou qui est peut-être déjà paru. Ça fait 80 pages. Je te le passe, comme ça tu vas pouvoir le lire, le parcourir. De quoi ça parle? Ça parle d'un Batman qui est quand même, selon moi, encore assez jeune, et qui commence à faire la sélection des affaires qu'il va vouloir prendre. On a quelques passages en fait où on le voit regarder passer au-dessus de Gotham et dire là il se passe ça, ouais je peux, c'est pas mes oignons. Là il y a un gang qui est en train de faire ci, c'est pas mes oignons. Et là il se passe un truc. Et il va tomber face à une personne qui est morte dans des circonstances pas très très cool. Et on va commencer à se rendre compte qu'il y a une sorte de pattern, un pattern sombre, dark pattern, la couve. Il va se mettre à enquêter sur ce dark pattern. Je veux pas sur cette affaire et comprendre un petit peu comment certaines affaires peuvent être liées. Au début de cette affaire-là, Gordon, pas encore commissaire, lui présente un nouveau médecin légiste qui a l'air un petit peu foufou, un petit peu dans son monde, qui va, à un moment ou à un autre, l'épauler ou être amené à intervenir sur cette affaire. Et Batman va rencontrer dans cet ouvrage-là un antagoniste un petit peu particulier, un super vilain, si on peut le qualifier ainsi, qu'il va qualifier d'homme blessé. Sa particularité, il est recouvert d'objets pointus, tranchants, tout ce qu'on veut, qui sont plus ou moins enfoncés dans son corps. Petite difficulté pour Batman, si tu lui mets un bourre-pif, tu le tues. Si tu lui mets une manchette à la gorge, tu le tues. Si tu le touches un petit peu trop fort, ce mec-là, tu le tues. Et vous savez bien que Batman ne tue pas. Donc ça devient un antagoniste qui est quand même compliqué à cerner. Et il va falloir fouiller, essayer de comprendre quels sont les schémas, quels sont les motifs qui vont relier les différentes victimes de cet antagoniste et comment cet antagoniste peut être relié à autre chose pour comprendre ses motivations. On est vraiment dans de l'enquête, pure et dure. Il y a quelques passages d'action, hein, bien entendu. Mais, encore une fois, on est dans un ouvrage qui va nous permettre de découvrir à quel point Gotham est gangréné de bout en bout et que il n'y a pas grand monde de sauvables. Hein. Graphiquement, c'est plutôt cool. On est sur du dessin comics, assez épuré, avec de la matière, mais quand je veux dire, c'est pas du, je sais pas comment expliquer le côté.
Ouais, je saurais pas trop expliquer. Moi, je trouve ça très joli.
Tu vois le côté épuré, mais pas trop.
C'est ce oui, que... oui, oui, oui. dans le côté où les couleurs, en fait. Quand il y a une couleur, c'est quasiment elle qui est sur
qui va
la surface.
C'est ça.
Et donc du coup, ça donne cette façon de donner l'impression un peu épurée ou comme tu dis, mais c'est quand même vachement détaillé. Hein. Le dessin, il est quand même assez fou, hein, les visages, tout ça, et on ressent le côté très sombre de Gotham.
C'est ça. Avec le côté dark. Avec,
voilà, exactement. Et cette couleur rouge en fait qui ressort tout le temps, selon plein de teintes plutôt pâles.
C'est le côté nocturne qui remonte.
Nocturne, exactement. Et non, ça. Alors moi, je lis très 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 peu de comics. J'ai pas trop eu l'occasion. Mais je trouve ça très chouette.
C'est vraiment sympa à lire. L'avantage, c'est que c'est un ouvrage qui est assez court. Donc, il n'y a pas de... Si on n'aime pas, on peut passer à autre chose rapidement. Mais ça nous laisse aussi découvrir l'univers de Gotham, les débuts de Batman, à quel point certains adversaires peuvent être un peu compliqués à gérer et à quel point, effectivement, c'est l'intelligence de Batman systématiquement qui va l'aider à sortir de ces situations-là. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre en le prenant, parce que c'est pas un service de presse, c'est un bouquin que moi j'ai ramené. Et en vrai, ça passe très bien, c'est très cool, et on passe pas un mauvais moment, on passe pas un long moment si on passe pas un bon moment à la base. Mais ça donne envie de découvrir ce que ça va être la suite, puisque effectivement le côté enquête est très présent. plus que dans d'autres aventures de Batman qu'on a pu voir et qui parfois peuvent s'étirer un petit peu trop en longueur en rentrant dans des grands mystères de là c'est pas une histoire qui est très complexe. Il y a des embranchements, il y a des choses à chercher mais c'est une enquête.
Bah après il le classe hein, d'ailleurs on le voit hein, à l'arrière dans Polar Thriller hein, clairement. Donc voilà, c'est ça ment pas sur sur le truc, c'est des affaires.
C'est des affaires.
C'est ce qu'il y a, affaire 1, affaire 2. Donc à voir pour la suite ce que ça va donner et puis
et à voir si les affaires seront liées entre elles aussi.
Exactement, peut-être. Est-ce qu'il va y avoir un lien.
Mais là vous pouvez le finir comme ça,
et
c'est
autoconclusif. Ça sera complet en 4 tomes.
Parfait. Pas trop lourd sur la bibliothèque.
Non, exactement.
Ah si les 4 tomes font 80 pages comme celui-là, ce qui est pas toujours garanti non plus.
Ouais, souvent quand même une fois qu'ils sont partis sur un format, ils en changent rarement sur une collection, mais peut-être, on sait jamais.
Je te laisse redonner les refs. Ouais. Hein.
Alors c'est Batman Dark Patterns de Dan Waters et Aiden Sherman. Et du coup c'est l'affaire 1, l'homme blessé, et c'est chez Urban Comics.
Top. Et là on va parler d'un ovni, mais je promets, je fais pas de prosélytisme, c'est pas du tout le but. On va parler quand même religion un petit peu. Bon, la Bible, tu vois.
Oui, je vois à peu près.
Voilà, Jésus, les 12 apôtres, voilà, dernier repas, il se fait trahir par un gars, Jésus est crucifié, le gars va se pendre, Jésus revient 3 jours après, 3 ou 4 jours, je sais plus, je suis pas très très bon en Bible.
Là, je serais pas allé jusque là, moi.
Voilà. Bon, tout le monde sait que Jésus a eu 12 apôtres, que Judas l'a trahi.
Exactement.
Et ben, faut savoir que cet ouvrage, publié aux éditions 404, s'appelle Judas, c'est de Loveness et Rebelka. Une traduction d'Aurélien Lehmann, voilà, ce qui est une bonne traduction. Et c'est par le dessinateur du dernier jour de World Philip Lovecraft. J'ai l'impression que tu avais parcouru le dernier jour de World Philip Lovecraft. Hein.
Non, du tout. En fait, j'ai cru que ça disait que c'était le dessinateur, que c'était lié avec Lovecraft. Et j'étais en train de me dire, Et puis
absolument
en fait, là,
pas.
Ça y est, là, j'ai remis les morceaux.
C'est juste même dessinateur.
Oui, exactement.
Même si il s'éloigne fortement, pas trop, mais il s'éloigne quand même de ce qu'il a pu faire sur cet ouvrage-là, qui est un ouvrage que je vous conseille vraiment, très très bon. Là, on va s'intéresser à la vie de Judas. Pas sa vie, mais sa vie post-mortem. Puisque je l'ai dit en préambule, dans la Bible, en fait, Judas va se pendre suite à la crucifixion de Jésus. Et suite à ça, Judas, il atterrit où ? En enfer ! Bien entendu. Et en enfer, il va faire la connaissance de quelqu'un qui va commencer à discuter avec lui. Et lui dire, mais t'es surpris d'être là ou pas ? Parce que tout a été fait pour que tu atterrisses là. Dieu, il voulait que tu viennes là. Jésus, il voulait que tu viennes là. Parce que dans toute bonne histoire, il faut un vilain. Bien sûr, Judas se trouve face à Lucifer, qui lui explique sa propre histoire, qui lui explique aussi pourquoi, de toute façon, depuis sa naissance, Judas était destiné à finir en enfer, et que ça a tout ça un sens. Il y a pas mal d'interprétations bibliques là-dedans, parce que de toute façon, l'histoire, c'est une histoire biblique, mais c'est hyper intéressant à lire, qu'on soit croyant ou pas. Hein. Si vous n'avez jamais lu la Bible, ça vous gênera pas du tout de lire cet ouvrage-là. Si vous avez lu la Bible, vous allez avoir quelques doubles sens, quelques informations complémentaires qui vont vous permettre de dire « Ah ouais !» Et c'est ça qui est cool. C'est que, qu'on soit croyant ou pas, le bouquin, il fonctionne bien. Il y a plein de significations, il y a plein de métaphysiques dessus, là, il n'y a pas de problème. Et en plus, le dessin, il est vraiment très cool. On a des aplats, on a de la matière, on a des grandes pages qui sont très très belles. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à regarder dans tous les sens. Et les couleurs claquent aussi, mais sans être flashy. Elles sont... J'ai l'impression qu'on a donné beaucoup de densité, beaucoup de contraste en fait sur ces couleurs. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, alors je suis assez interloqué entre guillemets sur le dessin. Je sais pas si j'aime.
Tu sais pas si t'aimes.
Ouais. En fait, c'est très particulier.
Okay.
Alors on sent qu'il y a énormément de travail, que c'est très bien maîtrisé, mais c'est un style. Ça fait très biblique en fait.
Ouais.
Ça ressort avec le côté un peu les écrits ou même les ce qu'on peut voir, les dorures ou ce genre de choses. Et du coup, c'est particulier. Tu vois, certaines pages, on voit comme ça, le personnage ressort. Je sais pas. Du coup, j'ai du mal à me dire est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. Faudrait que je lise l'histoire, en fait, je pense vraiment, pour pouvoir me dire est-ce que finalement ça me va avec l'histoire ou pas. Là, au premier abord, j'ai presque envie de dire que bah, c'est pas trop mon truc, ce style de dessin-là. Par contre, attention, hein, c'est quand même très bien dessiné. Dans c'est le sens chier, où il y a plein de détails, c'est vraiment bien précis et tout ça, mais c'est juste le style que je trouve particulier et où je me demande en fait si j'aime. C'est assez bizarre à dire comme ça.
L'ouvrage étant un grand format, on sent vraiment le travail de construction de chaque case. J'ai pas forcément l'impression que il y ait eu une construction simplement à la page, mais aussi à la case. Justement pour tenir un effet qui va nous rappeler des vitraux parfois, qui va nous rappeler des dessins d'ouvrage. Et on se surprend en fait à des fois à se dire que c'est peut-être un peu inégal justement cette construction. Les cases qui sont moins bien et à un moment, clac, on a une double page qui nous envoie un truc à la tête mais qui est d'une force. Et je trouve ça assez génial. On a ce côté presque cette invasion mystique dans notre cerveau à certains moments.
Ah oui, par contre, on sent tout de suite le côté mystique comme tu dis. Ouais. Hein, clairement, ça ressort de l'ouvrage. Et ça, pour ça, il n'y a pas de souci, ça marche bien.
Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant de se pencher sur ce personnage dont on connaît la fin. Mais là, ça lui donne un tour très différent, je trouve. Et ça marche vraiment très, très bien. Donc, moi, je vous dis, lisez celui-là. Lisez aussi Les Derniers Jours de Philip Lovecraft, qui est vraiment très, très bon aussi. Donc, voilà, faites-vous plaisir. Je te laisse redonner la référence.
Ouais, donc c'est Judah Loveness Rebelka, traduction Aurélien Le Mans, et c'est aux éditions
404.
C'est un grand format. Vraiment, ouais. C'est plus grand qu'un format classique BD. Hein.
C'est clair que c'est un grand... Ouais. Ah, mais il est un peu moins large. Enfin, le format est un peu étrange.
Voilà, le format est un petit peu différent. Mais... ouais, c'est un bel objet aussi, en tout cas. That's all, folks.
Et oui, c'est pour qui annonce la fin de l'émission. On va avoir le temps de se dire au revoir, de résumer vite fait ce dont on a parlé. On a parlé de... Donc, allez, on repart sur Judah, tiens, on fait à l'envers.
Donc, Judah de Loveness Rebelka, aux éditions 404.
Moi, Fabien a parlé du livre de multivers Super Strings d'Iwan Yoon et Boichi aux éditions Pika.
On a parlé aussi de Sanda de Paru Itadaki aux éditions Kiun.
On a parlé de la légende d'Amo, chasseuse de dieux de Nobuaki Tadano aux éditions Mangetsu.
On a parlé aussi de Batman Dark Patterns de Dan Waters et Aiden Sherman aux éditions Urban Comics.
On a parlé d'Ali et Gator de James Burks aux éditions Les Aventuriers d'ailleurs.
Et enfin, pour finir, car c'était une émission très chargée, donc,
ouais.
Et les bords, le retour de Junia de Eric Gosselet, Gérald Gerlet aux éditions Oxymore dans la collection Luciole.
Eh bien parfait, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, on se donne rendez-vous dans 15 jours.
Eh bien, dans 15 jours.
Et n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku Oni. Ore wa naru.
Batman. Oh, d'un petit ch'tou.
Trop vite. Il est parti de moi ici.
Justement, les touristes de bord.
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
So bright, so bright, so bright.
Radio G 101.5 FM.